RFI, grand reportage, Xavier Besson.
Le 41e cycle de négociations pour la paix en Colombie vient de commencer à La Havane. Depuis bientôt 3 ans, des délégations de la guérilla marxiste des FARC et du gouvernement y sont réunies pour de longues négociations. La Colombie, où plus de 50 ans de guerre civile ont causé des blessures profondes, 220 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Ce sont les milices paramilitaires d'extrême droite qui sèment la pire terreur qui a fait fuir 6 millions de personnes, le plus souvent des paysans qui sont chassés jusqu'aux coins les plus reculés du pays. Grand reportage aujourd'hui nous mène dans la Guajira, un département aride à l'extrême nord-est de la Colombie, où des paysans déplacés par la violence se sont installés en plein milieu de paysages désertiques. Colombie, un long chemin vers la paix, un grand reportage de Christine Zibel.
Réunion d'un groupe de paysans. Ils sont assis à l'ombre d'un manguier sur des chaises en plastique. Quelques femmes agitent des casquettes pour se ventiler. Il fait une chaleur de plomb. Ce groupe est l'un des 2000 collectifs d'indigènes, de paysans, d'étudiants, de femmes qui forment le mouvement politique et social Marcha Patriótica. Marlon McDaniel, jeune ingénieur environnemental et délégué départemental de ce mouvement, anime la réunion.
Le peuple soutient les dialogues de paix. Partout où nous allons, la majorité des gens disent « Nous ne sommes pas d'accord avec la guerre, et pour cause. » Car qui participe à cette guerre? Ce n'est pas le fils du maire, ni le fils du gouverneur, ni le fils du président. Ce ne sont pas non plus les fils de ministres. Qui va à la guerre? Vos fils.
La paix, oui, mais comment y arriver? Federman Moreno, l'un des paysans, connaît bien les problèmes qui font obstacle à la paix.
Les médias de l'État font croire aux gens que si la guérilla dépose les armes, le conflit en Colombie s'arrêtera. Mais c'est un mensonge. Le conflit en Colombie durera tant que la faim durera, tant que la misère existera, tant que les emplois, l'accès à l'éducation et aux soins manqueront. Certains parlent du conflit armé comme si seule la guérilla y était impliquée. Pour nous, le responsable des horreurs commises, ce n'est pas la guérilla, c'est le paramilitarisme, la force obscure de l'État.
Federman Moreno fait partie des 6 millions de déplacés de Colombie, 6 millions de paysans, de femmes, d'indigènes qui ont été chassés de leurs terres.
Moi, j'ai été déplacé du département Magdalena par les paramilitaires. Ils ont commencé à tuer tout le monde. Il fallait donc qu'on parte, ma famille et moi. J'ai dû laisser ma parcelle de terre et venir ici, dans le Guarija, à Maicao. Ce sont toujours les paramilitaires qui chassent les paysans de leurs terres. Avec quel objectif? Celui de donner les terres aux grandes firmes transnationales pour que celles-ci les exploitent. La terre fertile et productive est donc aux mains des multinationales. Et c'est l'État même qui leur a donné.
Tous ces paysans, ces paysannes réunis ici ont subi la violence des paramilitaires. Ils témoignent.
C'était ceux de l'autodéfense, donc un groupe des paramilitaires. C'était en 2001. On vivait là-bas, dans la Sierra. Mon père y avait un bout de terre. Alors si les paramilitaires te disaient « donne-moi cette poule », il fallait leur donner. Ils t'obligent. Si tu refuses, ils te tuent.
Oui, c'était des paramilitaires, personne d'autre. Ils ont commis des massacres, ils ont chassé des gens. Beaucoup de gens sont partis au Venezuela, déplacés par les paramilitaires.
Tous ces paramilitaires qui ont tué des gens, ils t'obligent à faire des choses que tu ne veux pas faire. Si par exemple tu ne leur paies pas ce qu'ils réclament, ils t'assassinent.
Marlon McDaniel reprend la route pour visiter d'autres associations paysannes et indigènes. Deux militants l'accompagnent. Jorge Elias Servides Ardila est paysan et représentant du groupe citoyen Marcha Civil pour Maicao.
J'espère tellement que les dialogues de paix réussissent, qu'il y ait enfin un changement dans notre pays. Ici, dans la Guajira, les enfants meurent de faim pendant que ceux qui nous gouvernent veulent l'argent des richesses naturelles. Les multinationales nous enlèvent le charbon, le gaz, le pétrole. et notre peuple continue à vivre sous la domination, dans l'ignorance, sans accès aux soins, sans travail, sans rien.
Gustavo Crespo, lui aussi paysan et membre de l'association paysanne Apro Agro, soutient depuis 30 ans les Indiens de l'ethnie Wayuu qui vivent dans la région.
Ce sont des communautés complètement abandonnées par l'État. Ici, il n'y a pas de bonnes conditions pour cultiver. Même s'ils ont des terres fertiles, ils n'ont pas accès à l'eau. Pourtant, dans le sol, il y a de l'eau de bonne qualité, mais j'ai bien peur qu'elle reste réservée aux multinationales qui cultivent les biocarburants et aux exportateurs de bananes.
Nous longeons une ligne de chemin de fer. Elle ne transporte pas de voyageurs, uniquement du charbon. La région en abrite en effet d'immenses réserves qui sont exploitées par la multinationale Cerrejón. Puis nous prenons un chemin sableux. Et la voiture de Gustavo s'enlise dans le sable. Enfin, c'est reparti. Au bout du chemin, plusieurs familles d'Indiens Wayuu et de paysans sont assis en cercle devant leur baraque faite de quelques planches. Marlon ouvre la réunion.
Pouvons-nous vivre en paix alors que la ligne de chemin de fer qui passe à moins de 5 km sert juste à sortir des milliers de dollars du pays, sous forme de charbon, alors que des enfants meurent de faim ici dans la Guajira? Seuls 8% des bénéfices du charbon reviennent à la Colombie, c'est-à-dire... Si une certaine quantité de charbon est vendue pour 1 million de pesos, la Colombie récupère seulement 80 000 pesos.
Pour protester contre cette situation et pour dire leur désir de paix, de nombreux indigènes et paysans de la Guajira sont récemment montés à Barranquilla, une ville sur la côte des Caraïbes, à quelques heures en bus d'ici. Le débat revient sur cette manifestation.
C'est la délégation la plus ordonnée.
Nous étions la délégation la mieux organisée. On s'est si bien comporté que les gens nous ont ouvert leurs portes. Ils nous ont prêté leur salle de bain. Plusieurs personnes m'ont raconté qu'ils ont pris des douches. Vous, vous avez pris une douche ?
Oui, ils ont pris des douches, fait des shampoings. Dans une région où l'eau courante est rarissime, personne n'est prêt à oublier ça. Marlon n'en revient toujours pas.
Cette mobilisation était un grand succès. Elle a aussi changé notre image. Avant, certains prétendaient que Marcha Patriotica était une organisation politique de la guérilla. Depuis cette manif, les gens ne le pensent plus. Déjà, à cause du grand nombre de personnes qui se sont mobilisées, une manifestation si grande ne peut pas être organisée par les guérilleros. Ils se seraient fait prendre.
Accuser les mouvements citoyens d'être de mèche avec la guérilla est une pratique courante des autorités colombiennes. Jorge Eliezer en a lui-même fait l'expérience.
Ils m'ont arrêté en prétextant que j'étais un guerriero. J'ai été persécuté et incarcéré. Mais l'État colombien n'a jamais pu prouver que j'étais autre chose qu'un militant, quelqu'un qui aide les communautés à réclamer leurs droits. Ici, dans les prisons colombiennes, il y a plus de 5000 prisonniers politiques. Des paysans, des militants, beaucoup sont morts en prison. Mais ce sont des gens engagés dans la lutte sociale. Ils n'ont rien fait d'autre. Ce sont de véritables prisonniers politiques.
Nous parcourons des kilomètres à travers des paysages arides. Ici et là, quelques arbustes chétifs. Des sacs en plastique, gonflés par le vent, se sont accrochés aux maigres branches. Nous arrivons à la dernière station de notre périple, le petit village de Mayuda, juste à côté de la frontière vénézuélienne. C'est la fin de l'après-midi. Le soleil commence à baisser. Une vingtaine d'habitants s'est rassemblée pour discuter de demandes d'aide faites au gouvernement. Semences, engrais, il manque de tout. Des poules se promènent parmi les chaises. Avec des petits coups de bec saccadés, elles s'attaquent à ce sol dur et sec. La réunion touche à sa fin. Jorge Eliezer se penche en arrière dans sa chaise en plastique. Il raconte.
Je m'appelle Jorge Eliezer Vides Ardila, j'ai 62 ans. Je suis né durant l'époque de la violence la plus critique que ce pays n'ait jamais connue, quand ils ont tué le grand leader libéral Jorge Eliezer Gaetan en 1948. Il incarnait l'espoir de tout un peuple, l'espoir de changement. Ils l'ont lâchement assassiné parce qu'il voulait mener des réformes sociales dont le peuple colombien a besoin. Je suis de cette époque, c'est là que mes parents m'ont conçu.
Ses parents l'ont donc nommé d'après Jorge Eliezer Gaitán, grande figure historique en Colombie. Tous les ans, les Colombiens manifestent le 9 avril, jour de l'assassinat de Gaitán, pour réitérer la revendication du leader, celle de justice sociale.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la mort de Jorge Eliezer Gaitán? Qu'est-ce que les gens voulaient? Depuis toujours, ils n'ont réclamé rien d'autre que des écoles, des antennes de santé, pas grand-chose. Mais depuis, rien n'a changé en Colombie. Au contraire, les choses ont empiré. C'est pourquoi les mouvements des insurgés sont nés et ils réclament les mêmes choses que les gens réclament depuis plus de 50 ans. Les mêmes écoles, les mêmes puits pour les paysans. Donc, nous luttons pour les mêmes choses. Ceux qui luttent dans les montagnes avec leurs armes et nous qui luttons dans les villes avec notre lutte sociale, avec nos mots, avec notre voix.
La lutte dans les villes est, elle aussi, à haut risque. L'État colombien n'a jamais permis l'émergence d'une vraie opposition politique, souligne Jorge Eliezer.
J'ai vu mourir beaucoup de camarades. Il y a eu un parti, l'Union Patriotica, qui a été littéralement éradiqué. Plus de 5 000 à 6 000 membres et militants ont été tués en une seule décennie. Ils ont assassiné des candidats à la présidentielle de ce parti, Pardo Leal et Bernardo Jaramillo Osa. Ils ont tué le sénateur Manuel Cepeda Vargas, lui aussi de l'Union Patriotica. Il faut que le monde sache, ils ont massacré des étudiants, des ouvriers, des syndicalistes, des enseignants, des paysans. Combien de fois je me suis assis pour pleurer ces morts? Des centaines de fois, des milliers de fois. Ça, le monde doit le savoir. Les choses ici en Colombie ne sont pas comme les médias officiels les décrivent.
Quelques voisins sont restés après la réunion pour discuter de la lutte sociale et politique et de leur perception de la guérilla. Est-ce des gens qui se battent pour eux, pour améliorer leur vie, ou au contraire, font-ils partie de ceux qui leur infligent des violences, comme c'est si souvent écrit dans la presse? Difficile d'y voir clair entre propagande médiatique et violence omniprésente.
Il y a eu une menace contre l'un de mes fils. Je ne sais pas de qui cette menace venait. Ils ont écrit sur les murs de ma maison « On va tuer ton fils ».
Personne ne savait d'où venait cette menace, de la guérilla ou des paramilitaires ou encore d'autres ennemis.
Les paramilitaires sont les plus violents. Ils ne respectent personne, ni les enfants, ni les vieux. Ils tuent tout le monde. Parfois, ils le font pour la seule raison que la guérilla est passée par là. Et là, ils te disent que tu soutiens la guérilla et ils te tuent. Mais tous violent les droits de l'homme. S'il y a deux forces qui se combattent dans le même territoire, alors ils sont parfois obligés de tuer des innocents pour se défendre eux-mêmes.
La guérilla ne s'attaque pas à la population civile. Je ne sais pas si cette déclaration va me mettre en danger, mais moi, oui, je souhaite qu'ils donnent un statut politique à la guérilla. Oui, je souhaite que les guérilleros aient l'opportunité de gouverner ce pays. Ils se battent pour nos droits à l'égalité et surtout pour les droits des paysans.
Quelques chansons plus tard, nous partons dormir dans des hamacs accrochés juste à côté, sous un simple toit.
Allá por la madrugada que los gallos cantar, yo me empiezo a levantar para emprender mi jornada. La candela está apagada.
Le lendemain, cap vers la principale ville du département, Riohacha. Ici, le désir de paix est visible partout. Paz, le mot espagnol pour paix, est écrit en grandes lettres roses, bleues et jaunes sur les murs des maisons et des échoppes. Sur la place centrale, une immense colombe blanche est dessinée sur le sol. Par le portail grand ouvert de l'église, les prières et les chants des fidèles se font entendre. À l'ombre des arbres de la place, quelques vieux conversent, assis sur un banc. Ils parlent des choses inoffensives, le temps, leurs pépères de santé. Ils évitent les questions politiques. Ça peut être dangereux d'en parler ouvertement. Nous avons rendez-vous avec José Camargo, professeur et secrétaire des droits de l'homme du syndicat des enseignants à Sodegua.
Colombia est un pays spécial. C'est comme une locura.
La Colombie est un pays très spécial. C'est la folie ici. Prenons l'exemple de Riohacha. Ce n'est qu'une petite ville, mais le pourcentage d'assassinats y est extrêmement élevé. Et le style des assassinats est toujours plus dantesque. La décapitation, par exemple. Ce style porte un nom, le paramilitarisme. C'est une manière de dire au peuple « taisez-vous ».
José Camargo a lui aussi beaucoup d'espoir dans le dialogue de paix de La
Havane.
Les dialogues de La Havane se déroulent sous une bonne étoile. Ils se font avec des dirigeants des FARC très déterminés à négocier. Au début des dialogues, l'un de ces dirigeants, Timochenko, a dit « Nous ne nous lèverons pas de cette table tant que nous n'avons pas conclu les accords de paix ». Le président Santos pensait que c'était juste des paroles, mais la pratique montre que c'est une position politique des FARC. L'État colombien a bombardé à plusieurs reprises les positions des FARC dans les montagnes, alors même que la guérilla était en train de respecter un cessez-le-feu unilatéral. C'est scandaleux. Le calcul de Santos était que les FARC allaient se lever, très en colère, de la table des négociations, et que c'en serait fini avec le dialogue de paix. Or, à sa grande surprise, les FARC ont dit non. On ne quitte pas La Havane, on reste et on se bat pour la paix et la justice sociale, comme on l'a toujours dit. Dans ce sens-là, je suis donc optimiste. Mais il faut qu'il y ait encore plus de dynamique sociale. Il faut que le discours de paix ne soit pas réservé aux idéologues, aux hommes politiques, aux politologues. Il faut que le débat se fasse à la base, au sein même du peuple. Et ça, ça devient urgent.
Ça devient urgent dans une société où une large partie de la population préfère effectivement le silence à la parole si risquée. Le silence ou la conversation intime avec Dieu, comme cette foule qui danse et chante dans l'église bondée. Un grand merci à tous les participants. Colombie, un long chemin vers la paix. Un reportage de Christine Siebert. Réalisation, Souel Kedir.
Christine Siebert, bonjour.
Bonjour Xavier.
Un grand désir de paix, on vient de l'entendre dans votre reportage, Christine. Où en sont les négociations de paix en ce moment à La Havane ?
Pour l'instant, le gouvernement colombien et les FARC sont parvenus à des accords partiels sur 3 des 6 grands thèmes de l'agenda. La réforme rurale, point extrêmement important dans un pays où les terres appartiennent à une poignée de familles riches. Une nouvelle répartition est donc essentielle. Ensuite, la participation de la guérilla et de tous les autres mouvements politiques et citoyens à la vie politique. Et enfin, la lutte contre le trafic de drogue. Ils sont désormais proches d'un accord partiel autour de la réparation des victimes. Reste 2 questions épineuses à traiter. L'abandon des armes et les modalités de ratification d'un accord de paix final.
Et cette avancée sur les droits des victimes est présentée comme un grand pas en avant.
Exactement, parce que les deux parties ont reconnu que des atteintes aux droits humains ont été commises dans leurs camps respectifs. Une première largement saluée. Les délégations à La Havane discutent donc sur l'indemnisation des victimes et elles ont affirmé leur volonté d'installer une commission de vérité pour faire la lumière sur ce qui s'est passé durant le conflit. Mais le problème, c'est que les paramilitaires, également responsables de graves violations des droits humains, ne sont pas assis autour de la table à La Havane. Le dernier rapport d'Amnesty International sur l'année 2014 dit explicitement « Les paramilitaires se sont rendus coupables de graves violations des droits humains seuls ou avec la collaboration ou l'aval de certains éléments des forces de sécurité. Ils s'en prenaient aux défenseurs des droits humains, aux dirigeants de la société civile et aux syndicalistes. » Ce rapport mentionne aussi de graves atteintes aux droits humains commises par les groupes de guérilla dans les zones rurales comme l'enrôlement des enfants et des attaques aveugles.
Le dernier rapport en date qui pointe ces violations provient des Nations Unies.
Ce rapport fait état d'une hausse très alarmante des meurtres de défenseurs des droits de l'homme et de personnalités politiques en Colombie. Et les plus menacés sont les responsables locaux de gauche. C'est très inquiétant aujourd'hui que les élections régionales approchent. Elles auront lieu en octobre en Colombie. Encore la semaine dernière, un candidat de l'Union Patriótica a été blessé par balle. Ce parti, ancré à gauche, a été littéralement éradiqué dans les années 80. Plus de 5000 membres ont été assassinés.
Donc pour conclure, Christine, on peut dire que beaucoup de choses doivent changer en Colombie avant d'arriver à la paix.
De nombreux observateurs le disent. À La Havane, les dialogues avancent parfois même étonnamment bien, malgré des incohérences énormes. La guérilla en est à son 6e cessez-le-feu unilatéral et le président Santos a annoncé il y a plusieurs semaines la fin des bombardements. Or, les accrochages entre l'armée et les FARC se poursuivent. Chacun accuse l'autre de violer la trêve. Le processus de paix avance donc sur le papier, mais sur le terrain, beaucoup doutent que la paix soit effective si les paramilitaires ne sont pas explicitement appelés par le gouvernement à cesser leurs activités et leurs exactions.
Et Christine Siebert, merci d'avoir été avec nous. Votre grand reportage en Colombie, on peut le retrouver sur notre site internet sur rfi.fr.